Tant que c'est OK, et ben voilà, nous allons pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur les pulps, sur les revues de SF. À côté de moi, deux spécialistes, Francis Saint-Martin et Bernard Cariou, entre guillemets, mais qui ont des belles collections. Il y a notamment une exposition à voir au premier étage sur les pulps de Bernard. Donc voilà. Première question peut-être avant de commencer, l'origine un petit peu des pulps. Qu'est-ce que c'est et comment c'est né? Alors, qui veut répondre?
Je vais peut-être commencer et je vais essayer, avant d'aborder véritablement les pulps, de faire un petit rappel historique concernant ce genre de littérature populaire qui est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle. La période américaine du milieu du 19e siècle est une période fébrile pour ce qui est du journalisme. Deux grands journalistes qui se doublent aussi d'éditeurs se livrent une compétition sauvage. Il s'agit de Randolph Hearst et Joseph Pulitzer. Pulitzer, qui est un journaliste de la côte ouest, qui est venu chasser sur les terres de Hearst à l'est, commence à concurrencer le grand journal de son confrère, et les deux entrepreneurs se livrent une guerre sauvage qui finit par déboucher sur une véritable émulation littéraire, une émulation journalistique, et qui donne l'envie à d'autres petits éditeurs de pénétrer le créneau. Ceci dit, ces éditeurs ne disposent pas des moyens énormes de Pulitzer et Earth et sont obligés de composer avec leur trésorerie parfois assez chancelante, mais ils n'hésitent pas à entreprendre, à publier des journaux. Et le problème, c'est que pour éditer un journal, qui au début bien souvent est hebdomadaire, il faut avoir les moyens d'envoyer des journalistes à travers le monde pour relater au moins leur voyage, constater des événements extraordinaires. Ces entrepreneurs n'ont pas ces moyens, par contre ils ont l'ambition et ils disposent d'auteurs, de journalistes, auteurs, qui ont la plume facile et qui vont commencer à écrire des reportages qui sont complètement inventés. Ça permet de fournir une matière très très importante, de remplir les sommaires et d'être tout aussi attractif que les grands journaux, parce que finalement quand on invente les événements, ils sont bien plus passionnants que quand on se contente de les relater. Pendant un certain temps, ce pseudo-journaliste va subsister sous cet avatar. Mais petit à petit, on se rend compte que des courants se dégagent, et en particulier quand on exploite les figures de l'Ouest mythique, ce que vont faire Street & Smith dans leurs journaux, ils vont commencer à relater les exploits de Buffalo Bill, exploits réels, mais quand même assez limités. Or, toutes les semaines, ils se rendent compte que quand ils relatent ces exploits, ils ont un lectorat très important qui les suit. Et ils font donc appel à des auteurs professionnels, qui ont parfois des vies extraordinaires eux-mêmes, et qui relatent des histoires fantaisistes de Buffalo Bill. À tel point que les éditeurs se disent, mais il ne serait pas inintéressant de publier des collections consacrées justement à Buffalo Bill, après à d'autres personnages qui sont aussi nés dans ces journaux-là. Ça va devenir ce qu'on appelle maintenant les dime novels, qui à l'époque aussi portaient ce nom, tout simplement parce qu'ils se vendaient le prix d'une pièce de 10 cents, donc le dime. Mais ce sont encore des brochures, comme celles que l'on a connues en France à peu près à la même époque, ou au début du XXe siècle. Ce sont souvent des hebdomadaires qui sont imprimés sur du papier de relative bonne qualité, illustrés en couverture, mais avec des pages muettes et une pagination réduite. Ces magazines se développent de plus en plus et on finit par se rendre compte qu'on n'a plus besoin de prétendre que les histoires sont véridiques pour attirer le public. La fiction l'a remporté sur la véracité. Et de nouveaux magazines bon marché apparaissent, notamment des magazines plus ou moins littéraires destinés à la jeunesse, puisque ce créneau commence à se faire jour. Il y a dans les grandes villes de l'Est des familles qui ont les moyens d'acheter des magazines pour leurs enfants. Et un entrepreneur de cette période, qui s'appelle Frank Muncy, on voit son nom ici en bas de Arcosi, a l'idée, pour réduire les coûts des magazines qu'il édite, d'acheter la qualité de bois, la qualité de papier la plus vulgaire qui soit, puisque à l'époque, il n'y a pas véritablement de collectionneurs de ce genre de magazines. C'est encore considéré comme de la presse, c'est-à-dire c'est du journal que l'on jette. Au mieux, que l'on se passe d'une main à l'autre jusqu'à ce qu'il tombe en poussière, complètement déchiqueté. Donc Franck Moncey, en 1896, a l'idée de présenter différemment son Golden Argosy, qui est un journal pour jeunes, de le transformer en journal de fiction qui présentera à son sommaire des nouvelles diverses, sans distinction de genre, bien sûr, à l'époque, parce que ça n'existe pas, et de l'imprimer sur du papier de mauvaise qualité. Mais par contre, l'avantage de ce papier, c'est qu'il est relativement épais et c'est on peut en faire un fascicule de bel aspect, comme ceux que l'on voit sur la table, c'est-à-dire avec des dos plus ou moins épais sur lesquels on peut imprimer le mois de parution, le titre, éventuellement l'histoire principale contenue dans la publication, et ce qui n'était pas possible auparavant dans les magazines qui étaient brochés. On avait vraiment des reliures très très simples. Et ce Golden Argosy se transforme donc en Argosy, un magazine qui finit par avoir un grand succès, un grand retentissement et s'attirer des imitateurs.
On est vers quelle année là à peu près ?
Alors, la transformation, l'apparition du premier pulp, c'est 1896. Donc c'est véritablement la fin du 19e siècle. Il se produit un effet d'imitation très très rapide, parce que de toute façon aussi, les papetiers commencent à proposer des papiers de mauvaise qualité aux autres intervenants du domaine. Street & Smith, qui est un très gros, qui en partant de leur publication journalistique, ont développé aussi tout ce secteur de Diamond Novels, s'avère très intéressé. Donc ils vont embrayer très rapidement sur ce format-là. Qui est pratique, solide, ainsi de suite, et pas très très cher, parce que le coût de ces magazines, on le voit, on doit avoir le prix ici, bon, c'est où ça tourne entre 10 et 20 centimes. Donc c'est un prix comparable pour plus de matériel, c'est très attractif. Et Argosy, c'est le début, ça c'est un numéro du début des années 10, ça doit être 1912, c'est déjà devenu un magazine fort pérenne qui a un nombre de publications très important parce qu'au début de leur carrière, les pulps sont restés très souvent hebdomadaires. Mais Argosy, c'est le. Je pense que c'est un rapport avec la Toison d'Or. Voilà. C'est la fameuse peau de mouton qui permet de récupérer les paillettes d'or dans la rivière dont j'ai oublié le nom, enfin bon, le pactole, voilà, c'est ça. Et donc c'est tout simple, c'est symbolique, c'est-à-dire que dans les pages d'Argosy, on va trouver toute la bonne littérature. Bon, d'aventure, c'est pas forcément le cas, mais du moins c'est l'intention déclarée.
Alors, simplement, je fais une petite parenthèse. D'abord, pour vous dire que Francis a tout un diaporama. On va pouvoir voir plein de choses au fil des ans et discuter au fil de l'eau. Et que Bernard a eu la gentillesse de nous amener des pulps qui sont sur la table. Donc, n'hésitez pas à venir les consulter. Il y en a qui sont assez rares. Voilà, vous allez voir comme c'est léger par rapport justement au papier. Enfin, c'est assez étonnant à voir. Francis, à toi.
Bon, je vais continuer en essayant d'être assez rapide pour laisser un peu de temps après aux discussions plus formelles. Donc, Argosy provoque des inspirations, mais réagit aussi en développant son caractère aventureux et universel. Et se transforme parce que le marché est extrêmement concurrentiel et on ne peut pas se contenter de vivre sur ses propres lauriers pendant des années et des années. Déjà dans les années 20, des multitudes de publications sont apparues. Des concurrents très très forts sont intervenus sur le marché. Il y a Street & Smith, mais il va commencer à arriver Popular Publications, Dell Publications, qui disposent de moyens assez importants et qui peuvent inonder les kiosques. Argosy se transforme en Argosy All Story Weekly, Donc déjà, on oublie un peu ce caractère très littéraire et on aborde un peu plus franchement la littérature fantastique, la littérature populaire, avec des textes qui sortent un peu plus qu'auparavant de l'aventure classique. Ici, on a une couverture avec le monstre de métal de Merritt, qui est un auteur qui a toujours écrit du fantastique, de la fantasy, et qui devient petit à petit quelqu'un d'important que les lecteurs vont suivre. Et il se dégage de ces publications-là une autre impression, c'est-à-dire que du généralisme, et on va le voir bientôt avec les pubs de science-fiction, on peut, comme on a extrait Buffalo Bill des journaux, on peut peut-être extraire de ces pulps génériques d'autres périodiques beaucoup plus spécifiques qui vont occuper des créneaux et qui vont s'avérer parfois bien plus intéressants que les publications généralistes. Voilà, un autre numéro de All Story Weekly pour dire que le genre le plus populaire à cette époque-là, aux États-Unis, c'est quand même encore le western. Ce genre perdurera jusqu'aux années 60 comme étant le plus populaire des États-Unis. Les publications consacrées au western sont pléthoriques, parfois assez intéressantes, mais très souvent très répétitives. Encore un pulp de l'époque, tout ça sont des pulps des années 1920. Là, un pulp book spécialisé dans l'aventure exotique. Certains des textes sont présentés encore, et c'est un retour au passé, comme des aventures originales, des histoires qui se sont vraiment passées, bien entendu, même si certains auteurs ont eu des vies aventureuses, leur imagination est bien plus prolifique que leur vie ne l'aura été. Ghost Story, c'est un pulp ancien, qui est l'émanation d'un éditeur à l'époque encore modeste et qui commence à flirter vers le genre, vers la littérature de genre. Dans Ghost Story, on a abandonné tout ce qui est aventure. On prétend encore raconter des histoires plus ou moins réelles. Il y a de nombreux sommaires où la distinction n'est pas bien faite entre le fantastique, la littérature ou le surnaturel vécu. Mais à la lecture, on se rend bien compte que tout est absolument faux. Mais le côté excitant des apparitions surnaturelles, des fantômes, est exploité et va durer un certain temps. C'est un des premiers pulps qui a complètement basculé vers un genre. Voilà, une petite photo d'identité du père fondateur de notre confrérie. Voilà Saint Hugo Gernsback dans ses années déjà un peu mûres. Bon, on ne va pas raconter sa vie ici. Je crois que tout le monde la connaît plus ou moins. C'est un émigré luxembourgeois qui s'est installé aux États-Unis et qui a entrepris parce qu'il aimait la technologie, la science, encore que la technologie n'existait pas à l'époque. C'était la mécanique, la radio. C'est de la technologie, mais le mot n'existait pas, la radio. Voilà. Il a entrepris la publication de magazines scientifiques, mais très vite, la science ne lui a pas suffi. Il a voulu y associer l'imagination et le devenir scientifique l'a intéressé. Et rapidement, après qu'il ait publié des revues sur l'électricité, sur la science technique, il s'est mis à développer au travers de sa marque toute une quantité de pulps qui abordaient franchement les terres de la science-fiction, qui étaient consacrés à la science-fiction, même si l'on y trouve quand même des reportages scientifiques, des nouveautés.
La science-fiction, en fait, à ses débuts, reste toujours très liée au domaine scientifique de l'époque. C'est-à-dire le lectorat, tout ça, c'est des jeunes qui sont portés vers la radio, le téléphone. On voit beaucoup ça dans les publicités des pulps de l'époque, où ça va être que des demandes d'emploi ou des annonces d'emploi pour des boulots d'ingénieur, devenir radioélectricien, des choses comme ça. Et puis un petit truc là qu'on peut remarquer, c'est que les auteurs principaux, en fait, des premiers Amazing, qui est donc la première revue officiellement de science-fiction, bah, c'est, en fait, c'est que des rééditions. Ça va être Wells, Jules Verne, Edgar Poe, des auteurs comme ça, ou des auteurs qui sont repris justement des publications de Munsey, c'est-à-dire Abraham Mérite, tous ces auteurs-là, qui en fait publiaient des 1912, 13, 15 même, enfin Mérite c'est 18, mais Burroughs, Ray Cummings, des auteurs comme ça que nous on connaît, on les a lus en rayon fantastique, mais en fait c'est des auteurs qui ont écrit des 1916, 1915. Et John Carter, par exemple, ça commence à apparaître, je crois, vers 1915, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très ancien, quoi, si on peut se remettre par rapport au niveau de modernité qu'on peut
avoir. Oui, ces personnages sont apparus dans des pulps génériques.
Voilà.
Dans le Blue Book, dans All Story. Burroughs a commencé et a pratiquement fait toute sa carrière dans des pulps génériques.
C'est ça, oui, oui. Et donc, aidé, en fait, 1912, 1910, enfin, des années. C'est vrai, quand on lit John Carter, on pense que ça a été écrit dans les années 50. Non, non, ça a été écrit au tout début du XXe siècle, quoi.
Voilà, par exemple, une histoire de Burroughs reprise dans un annuel d'Amazing Stories en 1927. Alors, on peut noter au passage le travail de l'illustrateur, qui n'est nul autre que Frank Herpol, que vous connaissez tous, et qui va marquer durablement le visuel de la science-fiction, l'imaginaire des lecteurs, interpréter la vision des auteurs, mais aussi générer chez eux, parce qu'une génération d'auteurs commence à émerger, tout un imaginaire de la science-fiction, un imaginaire technologique, qui va être exploité et qui va susciter de nombreuses copies, bien souvent de moins bonne qualité que son propre travail. Voilà. Alors, l'époque, même si on est toujours dans la réédition, parce que tous ces pulps sont antérieurs à 1930, ce sont les débuts de l'aventure de la science-fiction dans la littérature populaire. On a encore des visions très naïves de ce qui peut arriver. Le robot ici est extrêmement naïf. C'est un robot extraterrestre, bien entendu, mais on ne se préoccupe pas véritablement de réalisme scientifique. L'effet que l'on recherche, c'est de saisir le lecteur, c'est d'attirer son œil et puis de provoquer l'achat pratiquement compulsif, si possible, de la revue. Ça n'a pas changé, non?
Oui, ils avaient déjà des couvertures très, très chocs, en fait. Celle-là, particulièrement.
Alors, il y a science fiction.
Voilà. Bah là, on voit, en fait, parce que le mot de science-fiction, lui, il est assez enfin, récent. Il remonte aux années 30. Et au départ, donc, ça s'appelait, en fait, la science-fiction. C'est-à-dire que toutes les pulps antérieures, en gros, à 1900, enfin, je ne sais plus exactement la date... C'est toujours science-fiction. C'est apparu à un moment, quoi.
Voilà. Et on se rend compte là que Gernsback a bien saisi qu'il avait créé un nouveau courant littéraire, même si la science-fiction réellement est antérieure à ses publications. Mais il s'est rendu compte que l'attrait qu'il avait, lui, pour la littérature scientifique d'imagination était partagé par de nombreux lecteurs et que peut-être l'étiquetage des pulps, la mention de science-fiction à l'époque, science-fiction sur les couvertures, allait provoquer une adhésion de fait de tous les lecteurs potentiels de ce genre-là.
C'est ça, toucher donc cette espèce de jeune lectorat scientifique, entre guillemets. Puis je pense que c'est des gens qui, à l'époque, devaient avoir peut-être un pouvoir d'achat. Enfin, ils devaient commencer à cibler son public.
Quoi. Oui, ouais. Parce que ce magazine-là vaut quand même 25 centimes. À la même époque, il y a beaucoup de pulps qui sont encore à 10 centimes, à 15 centimes. Ça représente un coût relativement élevé. Un nombre de pages égales. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, aux États-Unis, on pouvait déjeuner pour 25 centimes.
Oui, oui, c'est aussi les années 20-30, c'est les années de la grande crise où il y a des famines en Arkansas, des choses comme ça. Donc... C'est pas des périodes très fastes, quoi.
Alors, Amazing Stories, voilà, on le sait, voilà, on le sait, a une postérité remarquable et a disparu sous une nouvelle forme il y a peu de temps. Mais c'est pour signifier que ce magazine a eu une grande durée et une grande influence dans notre domaine. Ça, c'est une couverture des années 50, mais qui est encore saisissante, comme on les faisait à l'époque. Le format aussi était pratique. On pouvait se permettre d'avoir de belles illustrations et des illustrations très lisibles encore à l'époque.
Oui, de toute façon, ce qui est le charme de ces revues maintenant, c'est vrai que c'est toujours l'impact que ça a entre le titre, la mise en page, la composition et puis les couleurs.
Une autre publication de Gernsback, Science Wonder Stories. Toujours une couverture de Frank Paul, assez différente de ses couvertures précédentes, parce qu'il y a le granité qui se trouve sur la droite et pas très très représentatif de son style, mais l'ensemble est très harmonieux et excessivement bizarre. Quand on détaille l'illustration, on est saisi par les détails et par l'imagination de l'auteur. Évidemment, quand on regarde une couverture de ce genre, on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir le magazine et de l'acheter. L'aspect visuel est très très important. Je fais une petite aparté là. Comment s'appelait-il? Ah, bon, je reviendrai, j'ai oublié son nom. Le directeur de Popular Publications, Harry Stiger, le directeur de Popular Publications, avait l'habitude tous les mois de se faire amener toutes les couvertures prévues pour ses pulps dans son bureau. Il les regardait pendant 6 secondes et. Ensuite, il éliminait impitoyablement les couvertures dont il ne se souvenait pas. Ah oui, pour lui, oui. L'essentiel, c'était l'aspect visuel du pulp. Si lui ne se souvenait pas des couvertures, le lecteur allait passer dessus, sans acheter la publication.
Oui, en fait, leur but à tous, c'était de vendre le plus possible. Hein. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, Gernsback, lui, a toujours eu la réputation d'être un très mauvais homme d'affaires. C'est-à-dire que toutes ces... Il a lancé Amazing et au bout de 4-5 ans ou 3-4 ans, il a été évincé ou s'il est parti de lui-même. Pour après, Amazing continue.
Il a fait faillite.
Amazing continue, racheté par quelqu'un d'autre, repris. Puis lui, après, il a recréé Science Wonder, Wonder Stories, Air Wonder Stories, voilà. Cette série-là.
Et il est
mais
toujours
à chaque
resté
fois,
dans le domaine.
Ça ne dure pas très très longtemps. Quoi. C'est... Les revues durent, mais lui, il ne reste pas très longtemps à leur tête. Quoi.
Est-ce qu'on a une idée des tirages, à peu près?
Oui, on a une idée des tirages maintenant. C'est autour de la centaine de mille.
Oui, c'est ça.
Mais les retours peuvent être des fois relativement importants. C'est de la presse, oui. Mmh. Donc on a des retours de 50% sur certains titres. Après, au début de la période, il y a quand même eu des titres qui ont été quasiment épuisés. Par rapport aux journaux, c'est infime. Après, dans ce style de publication, ces revues ont un bon tirage, mais ce sont des revues de genre, donc qui n'intéressent pas tout le monde. Un pulp générique comme Short Stories, où on a vu Top Notch, All Stories, le Blue Book, ont des tirages 5 ou 6 fois plus importants. Mais Gernsback ne se situe pas dans un créneau généraliste. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la science-fiction. Il publie des pulps de science-fiction. Et il se contente de ce marché-là. Marché qui est porteur, parce qu'on vous présente quelques titres. Bon, on n'insiste pas sur les dates, sur les détails, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais très vite, d'autres titres du même genre ou similaires, en tout cas des pulps de genre, vont apparaître et vont se partager ce créneau qui est un étage inférieur.
Oui, puis qui est en fait restreint par rapport à... Bon, aussi aux revues de sport, il y avait aussi des pulps de sport, des choses comme ça, ce qui, qui tirait beaucoup plus. Mais enfin, 80 000 ou 100 000, c'est...
C'est suffisant parce que les auteurs ne sont pas très payés. Et le papier ne coûte pratiquement rien. Ce qui coûte le plus cher matériellement dans un pulp, c'est la couverture. Et bien souvent, les éditeurs les imprimaient en lot. Donc les frais de couverture étaient répartis sur une seule plaque. Mais après, le papier ne valait rien. Voilà notre numéro de Wonder Stories. Donc toujours de Gernsback. Là. Ici, on constate une baisse de prix.
Oui, il y a une période où il passe de baisse à 15 cents.
Ah oui, c'est sa réponse aux méventes, aux difficultés de diffusion et surtout de récupération du fruit des ventes. Parce qu'on ne va pas l'aborder ici, mais le système de distribution américain a toujours été très très compliqué et a fait bien souvent beaucoup plus de mal encore que nos messageries parisiennes.
Ah oui, vu la taille du pays et les États. Puis à l'époque, bon, ils n'avaient pas trop d'avions non plus. Donc.
Voilà. Très belle couverture de Paul, toujours, pour un autre pulp de Gernsback.
Et là, en 29, là, on voit Edmond Hamilton, Jack Williamson, c'est pareil, donc c'est des auteurs qui remontent quand même à.
Oui, mais qui commencent maintenant à publier essentiellement dans les pulps spécifiques.
Voilà, oui.
Éventuellement, ils peuvent publier ailleurs sous d'autres pseudonymes.
Oui, il y a beaucoup d'auteurs, en fait, qui avaient plusieurs cordes. On peut voir Robert Nervy. Robert Howard qui faisait du western, qui faisait bon Conan, tout ça, enfin qui touchait en paix à tous les domaines.
Voilà, donc un des concurrents de Gernsback qui est apparu. Alors des petites firmes s'installent sur le marché. À l'échelle de l'édition américaine, ce sont en général des nains, mais elles se partagent un marché qui est suffisamment vivace pour les faire vivre. Les éditeurs de pulps ne comptent pas tant que ça par rapport aux éditeurs de journaux et aux éditeurs de littérature, de livres cartonnés qui commencent à apparaître et avoir des ventes suffisamment importantes pour bien en vivre. Et ces publications ne contiennent donc plus que de la littérature de spécialistes, de la fiction écrite directement pour ces titres-là. Les rééditions que l'on a vues auparavant chez Gernsback ne sont pas plus présente.
Et puis là, oui, comme tu le disais, on remarque toujours le mélange de science-fiction, en fait, et puis de science. Albert Einstein, enfin, des articles scientifiques, toujours dans les
pseudo-scientifiques.
Oui, après, il y aura aussi des pseudo-sciences qui viendront s'y ajouter.
Un autre pulp de l'époque. Voilà, des pulps un peu plus tardifs. Donc là, on a abandonné l'âge d'or du pulp. On se situe déjà aux alentours des années 40.
C'est l'âge classique. Même, voilà. L'âge d'or. C'est...
Ici, un pulp. Alors, on a vu jusqu'à présent, au début, des pulps qui ont repris des textes classiques, qui ont généré une véritable école d'écriture. Et cette école d'écriture, finalement, génère elle aussi sa réédition dans des pulps de ce genre-là.
Oui, Fantastic Novels, tout comme Famous Fantastic Mysteries, il doit y en
ou
avoir un peu
Merit,
sur la table.
Ou Abraham Merit aussi.
Voilà, Abraham Merit Stories. Ouais. Ce sont des pulps qui, en fait, ne font que rééditer des choses qui, donc c'est des pulps des années 40 à peu près, qui ne font que rééditer des choses qui étaient parues 20 ans avant, qui étaient parues dans les années 1920-1915, dans justement ces revues génériques, publiées, Mérite, Bureau, ces choses-là. Quoi.
Parce que n'oublions pas que là, nous ne parlons que de presse. Donc rien ne persiste.
Oui, il n'y a pas de livre.
Après le pilonnage. Encore que Street & Smith a eu l'idée à une époque de relier les invendus. Mais ça a fini par coûter relativement cher en frais de stockage. Il fallait ôter les couvertures, relier. Ça n'a pas perduré. Ils ont fait ça principalement avec leurs dime novels, mais ça ne représentait pas suffisamment pour les intéresser. Alors, la science-fiction, publiée dans les pulps, commence elle-même à se subdiviser. On a des histoires qui se passent dans l'espace, on a des histoires qui sont sur la Terre, des histoires dans le futur, ainsi de suite. Et des pulps commencent à se diriger vers des domaines bien plus spécifiques.
C'est-à-dire la fantasy, les choses comme ça, dans le sens où il y a de plus en plus d'histoires qui vont se retrouver sans connotation scientifique, ou bon, juste un petit vernis, histoire de dire, quoi, simplement on recrée un univers. Bon, fantaisiste, de fantasy, et ça commence déjà, oui, dans les années 40, ça, je pense.
Oui, c'est 40. Two Fiction House, c'est assez tardif. Là, on a vu tout à l'heure une couverture de Virgin Finlay, en voilà une autre. Finlay, qui va devenir, à cette période-là aussi, un nom extrêmement connu, un intervenant très recherché par les éditeurs. Il a un dessin très gracieux et un style graphique qui plaît beaucoup aux lecteurs. et qui est en même temps très facile à imprimer, parce qu'il n'a, il n'y a pas beaucoup d'aplats. Ces masses sont réalisées sous forme de bulles, d'explosions, c'est du pointillisme, c'est très facile à imprimer, ça rentre très bien sur ce mauvais papier. Alors que quand vous en verrez certainement dans cette pile, des illustrateurs classiques utilisaient le charbon de bois, les pastels, et oui, avaient des aplats noirs qui sortent gris sur ce, avec ce principe d'impression, et ce qui ne donne pas une impression
oui, ça sort,
très fine.
Souvent, des fois, avec des drôles d'effets, quoi, quand on les feuillette. Ouais, ouais.
Alors, deux ou trois couvertures de Planet Stories, qui ne sont pas parmi les plus connues, mais oui, pour sont... simplement signifier que apparaît aussi l'attrait sexuel. La société américaine se libéralise un tout petit peu et on commence à oser, ce qui avait commencé avec d'autres pulps qu'on l'on va voir, à jouer sur l'attrait sexy des héroïnes. Et Planet Stories s'est spécialisé dans ce genre, même si dans les histoires, il n'y a pas
aucun élément.
Il n'y a aucun élément. Mais en couverture, on a toujours des héroïnes mises en danger.
Par exemple, Planet Stories, c'est là-dedans que Bradbury a publié toutes ses chroniques martiennes, nouvelle par nouvelle. Donc bon, alors c'est vrai, quand on lit chroniques martiennes, on voit pas trop de scènes comme ça, quoi.
Mais, et ce pulp appartient à la catégorie de magazines qui, certaines fois, n'étaient même pas vendus en kiosque. Il fallait les demander parce que les libraires n'osaient pas les afficher. Alors, ce pulp est un pulp tardif, c'est un pulp des années 50. Nous l'avons rajouté tout simplement parce que c'est une des premières couvertures de James Bama que vous devez...